deuxième était le strobe.
Transistor.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous et bienvenue dans le 17e numéro de Le Monde ne suffit pas sur Transistor. À mes côtés, toujours fidèle au poste, Antoine et Thibaut qui inaugurent cette semaine une nouvelle chronique in extremis. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, très bien.
Mais nous accueillons aussi une nouvelle voix et féminine. Ce qui est à noter dans Le Monde ne suffit pas, c'est celle de Justine. Bonjour Justine.
Bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour à tous.
Pour cette deuxième émission de l'année, nous abordons un thème présent dans l'actualité depuis 2007. La crise économique, financière, en compagnie d'Aurélien Ekem, économiste, maître de conférence à l'ENS de Lyon et membre du groupe d'analyse et de théorie économique. Bonjour.
Bonjour.
Le monde ne suffit pas.
Et on va commencer, Justine, par un rappel des grandes étapes de cette crise.
Oui, donc les premières manifestations de désordre financier apparaissent en 2007 avec la crise des subprimes. Le système bancaire américain et les marchés financiers sont affectés par des actifs toxiques. Puis, courant 2008, la crise financière se propage en Europe et dans le reste du monde avec la faillite de nombreux établissements financiers. Et enfin, à partir de 2009-2010, ce sont les États eux-mêmes qui semblent gravement touchés. On parle à présent de crise de la dette. Mais à ce propos, Aurélien Ekem, comment est-on justement passé de la crise des subprimes de 2007 à la crise de la dette qu'on observe aujourd'hui? Est-ce la même crise? Est-ce que la crise de la dette est la conséquence directe de la crise des subprimes ou y a-t-il eu des mécanismes nouveaux qui sont entrés en jeu?
C'est ni tout à fait la même crise, ni tout à fait les mêmes causes, bien qu'il y ait des causes communes. Ce qu'on peut dire, c'est que la crise des subprimes, aujourd'hui, on a un petit peu de recul, elle est liée à trois éléments importants. D'abord, dans les années 80, la déréglementation financière, qui est venue d'abord aux États-Unis, ensuite dans des pays comme la Grande-Bretagne et puis en Europe. Et dans le même temps, un désengagement de l'État, notamment avec des baisses d'impôts importantes, qui ont conduit à une augmentation tendancielle tout au long des années 80 et des années 90 des inégalités. Et on peut dire que ces deux causes conjointes ont conduit, si vous voulez, à un endettement assez important de certains ménages, notamment aux États-Unis, qui a fait que, à partir du moment où on leur a proposé des emprunts immobiliers leur permettant d'être propriétaires, donc alors même qu'ils n'étaient pas suffisamment solvables, a fait que on s'est retrouvé dans la situation de 2007 où une partie des ménages qui s'étaient endettés pour acheter leur maison ou leur appartement, ne pouvaient plus rembourser leurs créances. Donc on peut dire qu'il y a à la fois des causes profondes. Les causes profondes, c'est la déréglementation financière ou l'augmentation des inégalités. Et puis, il y a des causes un petit peu plus ponctuelles. Alors, c'est venu sur le marché des subprimes. On peut dire que l'État américain, en l'occurrence, est responsable de ne pas avoir suffisamment régulé en amont les produits financiers qui ont été mis en circulation auprès des banques. Et donc, le deuxième point important, conjoncturel, si vous voulez, c'est la bulle qui existait sur le marché immobilier américain, qui a fait que, comme les maisons valaient de plus en plus cher, on pouvait les gager contre ces emprunts, qui fait que même si on n'avait pas suffisamment de revenus pour payer son emprunt, on pouvait finalement toujours dire « mais c'est pas grave, vous prendrez ma maison si j'arrive pas à rembourser ». Or, ce mécanisme-là, il ne fonctionne plus si vous avez une chute brutale des cours de l'immobilier. Donc, c'est ce qui s'est passé, en fait. Hein. La baisse brutale des cours de l'immobilier a fait que beaucoup d'emprunts n'ont pas pu être remboursés et que, donc, vous avez eu cette crise des subprimes. D'un autre côté, donc, les États sont ensuite intervenus, si vous voulez, soit pour soutenir certains établissements financiers, soit pour essayer de relancer l'activité économique. Et donc, d'une certaine façon, cette stimulation budgétaire ou fiscale les a amenés à s'endetter. Et donc, une partie seulement de la dette publique aujourd'hui est liée à la crise des subprimes.
D'accord.
Mais il faut bien voir que cette tendance générale à un endettement important des États, elle ne date pas de la crise des subprimes. Elle est préalable à la crise des subprimes.
Et donc, est-ce que la crise des subprimes a été comme un élément déclencheur de la crise de la dette qui aurait pu arriver peut-être dans quelques années, sinon ?
Ça aurait pu être. Donc, il se trouve que ça a été la crise des subprimes et donc l'intervention budgétaire très importante qui a été nécessaire pour soutenir l'économie. Mais ça aurait pu être autre chose. Si vous voulez, c'est un peu difficile de lier les causes. C'est pour ça qu'il y a des causes communes, il y a des causes différentes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y avait pas eu la crise des subprimes, mais qu'on avait eu une autre crise liée à un autre problème et que les États avaient dû intervenir, ils n'avaient plus de marge de manœuvre pour pouvoir, si vous voulez, relancer l'économie. Donc, ils auraient aussi dû augmenter leur endettement et peut-être à des niveaux que les marchés financiers n'auraient pas supportés. Et donc, on aurait pu aussi avoir une crise liée à un autre déclencheur.
Et d'un point de vue de la chronologie actuellement de cette crise, est-ce que vous pouvez par exemple comparer avec celle de 29 pour préciser où on en est dans la crise, si on peut le déterminer aujourd'hui?
Alors, ce qu'il y a de spécifique par rapport à la crise de 29, c'est qu'on a d'une certaine façon appris les leçons de l'histoire et on gère aujourd'hui beaucoup mieux la crise qu'on ne la gérait dans les années, à la fin des années 20. Si on devait comparer aujourd'hui, on dirait qu'on a fait des plans de relance, mais qui n'ont pas été suffisants, et qu'aujourd'hui, les dangers de l'endettement qu'ont généré les plans de relance sont encore trop importants pour pouvoir dire qu'on va définitivement s'en sortir. Donc il reste aujourd'hui beaucoup d'incertitudes. C'est cette incertitude qui plombe un petit peu l'économie aujourd'hui, qui fait que les bourses sont extrêmement sensibles dès que vous avez la moindre annonce ou la moindre réunion politique, tout de suite, vous avez des variations très importantes des bourses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs n'ont pas de visibilité, les consommateurs non plus, donc ils sont plutôt dans des stratégies de précaution, où il y a beaucoup d'incertitudes.
Et de court terme.
Et de court terme et de précaution. Ils réfléchissent essentiellement à aujourd'hui, et ils ont plutôt peur pour l'avenir, donc ils ont tendance à moins investir et moins consommer. C'est un petit peu ça le problème aujourd'hui qui fait qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer.
D'accord.
Et vous évoquez justement la bourse. Je voudrais parler aussi des agences de notation. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est leur influence réelle et quelle légitimité elles peuvent tirer dans la mesure où elles n'ont pas annoncé la crise ?
Et peut-être d'abord rappeler pour nos auditeurs ce que c'est exactement une agence de notation aujourd'hui.
Alors, donc d'abord, une agence de notation, c'est quelqu'un. Lorsque vous émettez un titre, par exemple un titre de dette, une obligation, vous voulez emprunter de l'argent sur les marchés, c'est quelqu'un qui est chargé de vérifier la qualité de votre signature, c'est-à-dire votre capacité à rembourser. Et sur la base de son analyse, il vous note, il vous donne une certaine note qui permet aux investisseurs de se donner une idée à la fois du risque qu'ils encourent en vous prêtant de l'argent et de la probabilité qu'ils auront de récupérer leur argent à la fin du prêt. Donc ça, c'est le rôle des agences de notation. Alors, il se trouve que les agences de notation, elles existent depuis très longtemps, mais leur rôle n'a pas été mis en avant de manière significative avant la crise actuelle, pour une raison assez simple, c'est que c'est un mouvement assez récent, a fait que les banques et les gestionnaires de portefeuille utilisent maintenant les notes des agences de notation comme des critères qui permettent de gérer plus particulièrement les portefeuilles. Autrement dit, ils édictent des règles qui disent, par exemple, il faut dans un portefeuille 30% d'actifs AAA, il faut ensuite 15% d'actifs AA, etc. Donc ils panachent leurs risques et ils ont des règles très précises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cas des États-Unis, c'était assez manifeste, quand un pays va perdre son AAA, alors les investisseurs automatiquement, parce qu'ils ont mis en place ces règles systématiques, vont réallouer leur portefeuille vers d'autres actifs. Les agences de notation ont pris un pouvoir grandissant parce que les investisseurs leur ont fait confiance ou leur font confiance. À tort ou à raison d'ailleurs, hein, puisque les agences de notation, comme vous l'avez souligné, font régulièrement des erreurs dans certaines de leurs évaluations, n'ont pas vu venir un certain nombre d'évolutions assez importantes sur les marchés financiers et donc sont critiquables à certains égards. Les agences de notation et de manière générale les comportements spéculatifs sur les marchés financiers, ce qu'on peut dire c'est qu'ils ne créent pas la crise. La seule chose qu'ils font c'est qu'ils l'amplifient et ils resserrent la contrainte sur les États ou les entreprises qui sont endettées. Mais d'une certaine façon, ils ne créent pas les conditions de la crise en eux-mêmes. Ce sont des amplificateurs. Donc ce qu'on peut dire c'est que ils peuvent à un moment donné apparaître comme jetant de l'huile sur le feu, mais ils sont pas à l'origine du feu.
Si on change d'échelle maintenant, en quelque sorte, pour passer pour passer des gouvernements, des structures, des banques aux populations, aux sociétés. La crise des subprimes, la crise de la dette, maintenant une crise sociale peut-être, c'est la question qu'on peut se poser quand on regarde le cas grec ou encore le mouvement des indignés là, qui prend une certaine ampleur jusqu'aux États-Unis. Va-t-on vers une crise sociale aujourd'hui ? Ou est-on dans une crise sociale ?
Alors, je pense qu'il est assez clair qu'on est dans une crise sociale. Cette semaine, par exemple, au Royaume-Uni, on a appris que le chômage avait atteint un plus haut historique. C'est-à-dire que le chômage n'a jamais été plus haut, selon les mesures officielles, qu'aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que si les États sont si préoccupés par la crise, c'est en particulier du fait de leurs conséquences sociales. Puisque quand il y a une crise, les gens se retrouvent massivement au chômage. On sait que le chômage a des conséquences sociales très importantes sur les problèmes de violence, sur les problèmes d'alcoolisme, sur tout un ensemble de problèmes essentiels qui ne sont pas, si vous voulez, au cœur de l'analyse économique, mais qui sont des conséquences très importantes de ce qui se passe dans l'économie. Je pense que si aujourd'hui tout le monde est très, très concerné et inquiet par cette crise, c'est essentiellement du fait de ces conséquences sociales.
Mais justement, ces mouvements ont tendance à accuser les États de ne pas investir pour résoudre ces problèmes sociaux en priorité, mais plutôt, par exemple, de venir en aide aux banques. Et c'est justement cette intervention-là de l'État qui est mal vue par ces mouvements d'indignés. Alors, est-il légitime, du coup, pour les États d'intervenir dans les banques au lieu de résoudre, premièrement, les problèmes sociaux que vous évoquez ?
Vous avez raison de souligner ce qui peut apparaître comme un paradoxe. Ceci dit, il faut bien comprendre, et c'est extrêmement difficile à comprendre pour quelqu'un qui aurait perdu son emploi par exemple, que sa situation pourrait être bien pire si sa banque venait à faire faillite. Les États cherchent à soutenir les banques pour éviter que, si vous voulez, la crise ne prenne des proportions massives, destructrices à un point tel que le chaos social serait presque total. C'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est là où vous avez aussi sans doute raison, c'est qu'il faut faire les deux, en fait. Il faut à la fois essayer de soutenir les banques et éviter qu'elles fassent faillite, et en même temps, essayer de dégager des marges de manœuvre, même si on est endetté, pour essayer de sortir de la crise et d'aider socialement les gens à sortir de la crise. Parce que sortir de la crise, ce sera le meilleur moyen de payer ses dettes. C'est un équilibre qui est difficile à trouver.
Et donc justement, par rapport à des mouvements comme les indignés qui parlent de dictature des marchés ou ce genre de slogan, quelle est la marge de manœuvre pour les États, justement, face aux banques à qui ils doivent de l'argent ?
Alors,
j'ai envie de superposer une question avant de vous laisser répondre. C'est au-dessus des États, on a l'Union européenne aujourd'hui qui est en crise. Et quelle est la marge de manœuvre de cette union d'États particulièrement ? Voilà, la Banque centrale européenne, etc. Et cet ensemble d'associations.
Alors, je vais commencer peut-être par faire une réponse un peu générale sur les marges de manœuvre des États dans une économie financiarisée. Puis ensuite, on abordera aussi les problèmes spécifiques de l'union monétaire. En fait, les États disent aujourd'hui qu'ils ont les mains liées. Et c'est partiellement vrai, mais c'est partiellement vrai seulement. Pourquoi ? Dans les années 80, ils ont fait le choix de déréglementer massivement les marchés financiers. Ils se sont mis dans une situation où ils ont accumulé de la dette. Aujourd'hui, ils sont dans une situation où les marchés les menacent. S'ils ne payent pas leurs dettes, ils sont dégradés et il y a un risque de crise de la dette. Et en même temps, s'ils réduisent trop fortement la dette, la croissance risque d'en souffrir énormément. Et donc, finalement, ils ne pourront pas non plus payer leurs dettes, puisque l'endettement qui est soutenable, il est généralement calculé comme un ratio entre la dette et le PIB. Donc il est facile de comprendre que même si on essaye de faire baisser la dette en niveau, quand on la rapporte au PIB, si le PIB baisse plus que la dette, on va finalement en fait avoir un endettement qui va augmenter. D'accord ? Donc c'est un équilibre qui est très délicat. Les États, dans le système actuel, ont une marge de manœuvre quasiment inexistante. Mais c'est sans compter sur la capacité normalement des États à intervenir dans l'économie et à pouvoir re-réguler certains marchés, à réinstaurer des règles, à réinstaurer de la régulation sur les marchés financiers pour se permettre de récupérer des marges de manœuvre. Alors, en particulier, quand on pense à certaines banques, hein, qui sont des acteurs très importants sur les marchés financiers, les gens vivent d'autant plus mal les sauvetages des banques qu'ils pensent qu'elles ont largement contribué à la crise, notamment en spéculant. et donc dire bah, vous êtes en train de sauver un pyromane. Donc voilà, c'est ce paradoxe-là qui est assez important. Alors les économistes sont à peu près unanimes aujourd'hui pour dire qu'il faut revenir à une séparation très claire entre les activités de financement de l'économie normale. Je dépose mon argent à la banque, je vais faire un crédit pour acheter une voiture ou un appartement, des activités de marché, celles qui sont beaucoup plus spéculatives, dangereuses et qui peuvent mettre en péril la viabilité même de la banque. En faisant ça, en fait, on éviterait un problème qu'en économie on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire je prends des risques, je gagne, tant mieux, je perds, c'est pas grave, quelqu'un paiera pour moi. D'accord ? Si vous jouez à un jeu où vous êtes sûr de ne pas perdre, autrement dit, vous êtes toujours sûr de jouer à ce jeu-là. Alors que si vous réinstaurez donc cette séparation entre les banques, entre l'activité de dépôt et de financement et l'activité spéculative, vous dites aux branches spéculatives des banques, vous avez le droit de spéculer, mais si vous perdez, vous prendrez les pertes. Et donc, d'une certaine façon, vous modérez le comportement risqué et la prise de risque par les investisseurs. D'accord ? Donc finalement, on voit que en faisant ça, les États pourraient simplement dire « Nous, on sauvera la partie qui est essentielle pour l'économie, celle qui gère les dépôts, qui fait les crédits, et puis on laissera tout simplement mourir les activités spéculatives qui prendront trop de risques et qui finalement voilà, prendront toutes les responsabilités conséquentes à leurs actes. »
Et sur la question particulière de l'euro et de l'Union européenne, donc ?
Alors, donc
on peut peut-être l'illustrer avec le cas grec et partir de ce cas particulier pour en dire des...
Alors, le cas grec est intéressant, mais je voudrais aussi parler du cas espagnol, parce qu'il va nous permettre de comprendre un petit peu les choses. En Europe, donc à partir de 1992, on a décidé de créer une monnaie unique, et ça a impliqué une convergence économique à marche forcée entre différents pays. La monnaie a été créée en 1999, elle a commencé à circuler en 2002, et on a une politique monétaire commune, en gros, depuis 1999, entre des États qui, selon les économistes, restent très différents, enfin, qui restent quand même différents dans leur structure économique. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes marchés du travail, on n'a pas les mêmes marchés des biens et services, on n'est pas exposé de la même manière, on n'a pas la même industrie, donc on n'a pas le même type de commerce, même si on commerce beaucoup les uns avec les autres. C'est ajouté, si vous voulez, au problème un peu observé au niveau mondial, c'est-à-dire d'augmentation des inégalités, de déréglementation financière, un problème plus spécifique à l'euro. Ce problème spécifique, c'est le suivant. Vous avez une politique monétaire pour 12 États, ou 13 États. Et pour les États du Sud notamment, alors je pense à l'Espagne, le Portugal, l'Italie un peu dans une moindre mesure, la Grèce évidemment...
Les fameux pigs qu'on entend régulièrement. Voilà.
Ces pays-là étaient des pays traditionnellement un peu plus inflationnistes que des pays comme l'Allemagne ou la France. En mettant en commun notre politique monétaire, ce qu'on a fait, c'est que, d'une certaine façon, on a les Allemands, par exemple, si vous voulez, ont fait profiter les autres pays européens de leur crédibilité monétaire en échange d'une politique monétaire relativement austère. Il se trouve que depuis qu'elle a été créée, la monnaie unique, en réalité, quand on regarde, la politique monétaire a été plutôt clémente et les taux d'intérêt sont restés à des niveaux relativement faibles. Ce qui compte quand on veut s'endetter, c'est de regarder les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal, celui qui est fixé par la Banque centrale, diminué des anticipations d'inflation, ou de l'inflation, pour faire simple. Les pays qui font le plus d'inflation... dans un système où vous avez le même taux d'intérêt nominal, pratiquement, vont avoir des taux d'intérêt réels plus bas. Et quand on a des taux d'intérêt réels plus bas, on a toujours intérêt à s'endetter plus que si on avait des taux d'intérêt réels plus hauts. Et si on regarde bien ce qui s'est passé, en Espagne, vous avez eu un endettement privé massif. En Grèce, vous avez eu un endettement public massif. En Irlande, vous avez eu un endettement privé massif. Et finalement, que ce soit l'État ou les individus, les ménages, les entreprises qui s'endettent, finalement, la monnaie unique a favorisé l'endettement un peu généralisé. Alors, ce n'est pas la seule conséquence, parce que non, quand on fait de l'inflation, c'est en union monétaire, bon, d'un côté, effectivement, ça nous permet de s'endetter à des taux plus bas que les autres pays, Ce qui est paradoxal, puisque normalement, quand on est un pays inflationniste, on ne devrait pas pouvoir s'endetter plus qu'un pays qui a une inflation faible. Et le deuxième point qui est un petit peu gênant dans ce système-là, c'est que quand vous faites de l'inflation, vos prix augmentent plus vite que les prix, par exemple, les prix en Grèce et en Portugal, en Italie, en Espagne, ont augmenté plus vite que les prix allemands. Et parce qu'on a une monnaie unique, on a un taux de change commun, en fait, d'accord ? Donc les prix des biens grecs ont augmenté tellement vite qu'ils sont devenus de moins en moins compétitifs en termes de commerce international. Et c'est exactement ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y avait plus d'inflation en moyenne en Grèce, au Portugal, ces pays-là avaient des déficits commerciaux qui augmentaient de manière très sensible.
Et donc, on a parlé de l'intervention possible des États. Est-ce le seul moyen de sortir de la crise ou y a-t-il d'autres vecteurs possibles ?
Clairement, il faut encore distinguer la situation générale de la situation des pays européens. Pour les pays européens, on peut dire qu'il y a des solutions aux problèmes spécifiquement européens. Pour le reste des pays du monde, il y a aussi des solutions, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes.
Si c'est possible, j'ajoute la question de la temporalité un peu de ces sorties de crise. Est-ce que, à quel terme peut-on espérer sortir et est-ce qu'il y a plusieurs échelles dans le temps de solutions ?
Alors, de toute façon, cette crise, elle pointe, d'une certaine façon, des fragilités structurelles. On voit bien que les marchés financiers totalement dérégulés ne fonctionnent pas correctement par eux-mêmes. C'est lié à tout un tas d'imperfections, de problèmes d'information, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas bien. Donc, il est nécessaire de réfléchir, alors est-ce que c'est aujourd'hui, demain, etc. Mais il faut en tout cas réfléchir de manière très importante sur une re-régulation des marchés financiers. Alors, il ne s'agit pas d'une planification centrale extrêmement rigide, etc. Mais il faut être conscient de ces imperfections. Donc, les États ne feront pas l'impasse sur ça. Ou alors, pas de solution de sortie de crise pour eux. Ça, c'est le premier point. Donc, ça, d'une certaine façon, c'est la solution générique. La solution à court terme pour les États, ça doit être de hiérarchiser un petit peu les dépenses publiques. C'est-à-dire que ils doivent à la fois essayer de maintenir leur déficit public en deçà d'un certain niveau, voire dégager des excédents pour se désendetter, et en même temps ne pas sacrifier les dépenses publiques qui sont vectrices de croissance économique, comme les dépenses d'éducation ou les dépenses en certaines infrastructures publiques qui font de la croissance économique. Donc c'est un équilibre extrêmement délicat. Il faut choisir d'une certaine façon de réorienter les dépenses, comme on peut choisir aussi de réorienter les impôts. D'accord ? Donc, certains économistes en particulier pensent qu'il est très important de réintroduire plus de progressivité dans les impôts pour réduire un peu les inégalités, pour que la crise soit mieux amortie. Si on a une logique un peu keynésienne, on sait que généralement, les populations qui sont un peu plus pauvres ont tendance à consommer plus que les populations plus riches, qui, elles, épargnent un peu plus. Et donc, faire de la redistribution, ça peut être un bon moyen par les impôts, en ne touchant pas les recettes fiscales, mais simplement en les allouant de manière un petit peu différente, en les réorganisant, voilà, d'avoir un petit peu de relance par la consommation. Donc, ça peut intervenir sur les dépenses, ça peut aussi intervenir sur les recettes. Mais c'est de toute façon un exercice d'équilibre assez délicat.
Alors on me fait signe qu'on a déjà beaucoup parlé, donc c'est l'heure de la rubrique In Extremis de Thibaut.
Alors pour cette première de la rubrique In Extremis, je vous dois quelques explications, chers auditeurs. Il s'agit de poser à l'invité de l'émission quelques questions géographiques pour compléter l'interview brillamment menée par mes petits camarades, et si possible en lien avec un thème au programme de l'agrégation, mais ça c'est une autre histoire. Alors Aurélien Ekem, je voudrais compléter cette approche de la crise, joyeuse approche de la crise, en parlant de conflits, encore plus joyeux. Et pour cela, je vais revenir sur quelques lignes écrites par Michel Fouché dans un numéro de la documentation photographique appelé « Les nouveaux déséquilibres mondiaux » qui date de 2009. Il parle dans ce texte de la crise de 2007. Et il dit « La crise résulte finalement des déséquilibres macroéconomiques entre les excédents et les déficits et des défauts de surveillance par la puissance publique, des acteurs financiers privés, banques, assurances, marchés. Elle révèle de persistants déséquilibres entre monde occidental et monde émergent et une inadéquation des modèles de développement prônés par les occidentaux à la nouvelle donne mondiale. » Alors, ce qu'on retrouve un peu dans cette description, j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup d'éléments que vous nous avez donnés en analyse de la crise actuelle. Or, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui change. C'est ce conflit qu'on a également évoqué dans l'interview avec les indignés. Un conflit populaire qui oppose donc le peuple à ses dirigeants. Alors, moi, je voudrais vous demander, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il n'apparaît que maintenant, si on avait des conditions similaires en 2007?
Quand j'essaie de faire la distinction entre des causes profondes et des causes plus ponctuelles, il faut penser à de l'essence. Vous avez de l'essence qui se déverse, mais tant qu'une allumette n'a pas été craquée, finalement, cette essence, elle peut pas brûler. Donc, d'une certaine façon, même si on a pu sentir de part, par exemple, la désaffection politique d'une certaine frange de la population, un certain sentiment de révolte. Je vous rappelle qu'en France, par exemple, le 21 avril 2002, c'était le candidat de l'extrême droite qui passait au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc il y avait quand même un petit peu des signaux déjà sur cette révolte et sur ce rejet du monde à la fois politique, du monde des affaires, des banques, etc. Mais c'est aussi tout simplement parce qu'on n'avait pas la matérialité de la crise, celle qui fait tout simplement que vous perdez votre emploi ou que vos frais d'inscription quand vous allez à l'université doublent ou que vous perdez des allocations qui vous sont essentielles pour vivre.
Donc c'est le fameux passage dans l'économie réelle.
Voilà, donc c'est la différence, si vous voulez, qui existe entre des déséquilibres qui vont pas forcément se transmettre à certains secteurs de l'économie, par exemple le marché du travail ou les finances publiques, à des déséquilibres qui vont avoir un impact direct sur la situation individuelle des gens et qui va faire qu'à un moment donné, voilà, ils vont se révolter.
Alors ça fait quasiment 5 ans qu'on parle de la crise. Est-ce que la signification du mot a changé pour la population, qui serait devenue un référent nouveau expliquant ce ras-le-bol?
Pour les économistes, la définition des crises, elle n'a pas vraiment changé, si on se contente de regarder simplement des indicateurs macroéconomiques. Ceci dit, si on réfléchit bien, on a un peu l'impression qu'on est un peu à un stade où on remet en cause nos propres modèles, c'est-à-dire le modèle, on va dire, plutôt libéral, qui a commencé à dominer au début des années 80 aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et donc, cette crise économique, elle finit par se traduire, disons, par pointer les déficits politiques, sociaux, moraux qu'on trouve, en fait, dans la société. Donc, finalement, d'une crise économique, on passe à une crise qui paraît plus globale. Et donc, effectivement, on est depuis 5 ans en crise, même si économiquement, on n'est pas depuis 5 ans en crise.
Et une dernière question. Ce conflit, tel qu'il est relayé par les médias, il semble opposer la population et ses gouvernements. Est-ce que la population ne se trompe pas de cible après tous les acteurs économiques qu'on a évoqués depuis le début de cet entretien?
Quand on entend parler certains hommes politiques, on a l'impression qu'ils ont finalement des marges de manœuvre qui sont extrêmement réduites. Ceci dit, dans l'absolu, ce n'est pas totalement vrai. Parce qu'il y a certains pays qui, par exemple, instaurent un contrôle des capitaux, qui, par exemple, instaurent une taxation des transactions financières. Et ces pays-là ne s'arrêtent pas de vivre du jour au lendemain. Il continue à y avoir de l'activité, des gens qui échangent, des gens qui produisent des choses, des gens qui vont offrir leur travail sur les marchés, etc. Donc, d'une certaine façon, je crois que ce que les gens reprochent le plus aux hommes politiques, c'est leur manque de courage politique. C'est finalement de dire, mais non, regardez cette situation-là, on peut pas la changer, on peut pas y faire, on peut absolument pas sortir des contraintes qui nous sont données, alors que il existe des alternatives, qui sont pas des alternatives radicales, on parle pas de socialisme de marché, on parle pas de planification, on parle simplement de quelques mesures pour corriger les déficiences de marché que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà identifiées depuis longtemps.
Merci beaucoup Aurélien Kem donc pour ces réponses éclairantes et on vous retrouvera régulièrement d'ailleurs sur les ondes de Transistor dans l'émission Présidence de Thomas Lacombe dans la rubrique Actu.
Merci beaucoup.
Eh bien, c'en est terminé de cette émission sur la crise. Merci beaucoup Aurélien Kem d'avoir un peu éclairé cette situation qui la plupart du temps nous échappe.
Oui, merci à vous Aurélien Kem et merci pour votre fidélité chers auditeurs. N'oubliez cependant pas d'écouter les autres émissions de Transistor, notamment cette semaine un numéro de 20 minutes d'histoire nouvelle formule, avec au programme les événements du 17 octobre 1961 et l'anniversaire de la Normandie.
À très bientôt au micro de Transistor, en espérant bien sûr que jamais le monde ne vous suffira.